Je me suis dit pourquoi ne pas repartir sur le chemin et rencontrer à nouveau les Français, des Français très divers, comme ils le sont, mais cette fois-ci avec l'élection présidentielle en ligne de mire. Et donc je leur ai fait parler non seulement de leur vie, de leurs problèmes, ce qui était le cas du livre précédent, mais aussi de cette campagne présidentielle, de comment ils la voyaient. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous savez, souvent les gens décryptent beaucoup mieux les jeux politiques que les observateurs se l'imaginent, les observateurs professionnels ou les acteurs politiques. Ce qui fait que c'était une des intuitions de départ de ce livre. Moi, je crois que la communication politique, il y a une croyance derrière qui est tout à fait outrancière. Les communicants, qui sont une sorte de parasites payés, qui prélèvent des sommes considérables sur les acteurs politiques, leur font croire qu'ils peuvent manipuler l'opinion par des petites formules, par des stratégies, par ceci, par cela, alors qu'en fait, les gens décryptent souvent, je me souviens de des comptoirs de bistrot, les gens vous parlent d'effets d'annonce, donc ouais, ils ne sont pas aussi dupes que d'aucuns se l'imaginent. Donc, rencontre des Français, mais aussi rencontre d'acteurs politiques de tous les niveaux. Les militants, alors là aussi les militants, ils peuvent avoir leur côté agaçant avec des formes de fanatisme. Mais étant un ancien militant moi-même, et j'en connais d'autres dans cette salle, je sais qu'aussi ils peuvent avoir des qualités. Notamment, j'ai trouvé parfois une lucidité dans l'analyse du jeu politique chez ces militants que là aussi certainement leurs dirigeants ne soupçonnent pas véritablement. Donc rencontre des militants, par exemple... les militants socialistes pendant la primaire, dans le Nord, parce qu'à chaque fois j'allais dans un endroit précis, rencontre pendant une semaine des militants du Front National dans l'Oise, qui est un département où cette formation est bien implantée. Alors là, il faut les approcher, hein, il faut les mettre un peu en confiance, il faut prendre son temps. Hein, alors là, c'est comme voyage en France, c'est pas du micro-trottoir, c'est-à-dire que les entretiens, c'est une heure et demie, parfois deux heures. Et pour des militants du Front National, il faut ça pour passer une barrière, évidemment, de méfiance qu'on peut tout à fait imaginer. Là, je prétends retranscrire sans caricature leur vision du monde, la façon dont ils ressentent leurs problèmes, et ça permet pas forcément de les rendre sympathiques, encore que certains d'entre eux que j'ai rencontrés avaient une forme de sympathie. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une compréhension au-delà de condamnation morale ou de discours un peu faciles qui sont tenus. Donc les militants, des élus locaux, des responsables, jusqu'aux candidats. Au premier rang desquels, naturellement, François Hollande, qui, je donne un chapitre entier, alors bon, j'ai déjeuné avec lui, c'était le 30 mars, j'étais frappé par le fait, on y reviendra peut-être un peu plus dans le détail, par le fait que cet homme qui était en pleine campagne électorale était d'une forme de sérénité assez étonnante et que, également, il avait une confiance absolue dans sa victoire. Il savait pas, comme moi d'ailleurs, quelle était son ampleur. Je vais revenir en conclusion sur le résultat du 6 mai, parce qu'il est quand même intéressant à analyser. Mais il était d'une tranquillité telle qu'il a pu dérouler un certain nombre d'analyses qui d'ailleurs maintenant font un peu de bruit, parce que vous avez peut-être remarqué qu'à un moment donné, vous n'avez pas encore lu le livre, mais enfin, ça a été dans des bonnes feuilles, qu'il a à un moment donné parlé du libre, enfin je lui parlais du libre-échange, et il s'est lancé dans une tirade sur les Chinois, nos amis les Chinois, en disant que de la même façon qu'il avait nommé la finance comme adversaire, il faudrait nommer la Chine, car, je le cite lui, les Chinois trichent sur tout, et que ce serait un problème à résoudre avec nos partenaires européens, même si ça pose des problèmes, puisque les Allemands n'ont pas, par rapport à la Chine, les mêmes intérêts que la France. Donc, vous voyez, c'est assez, pour ceux qui auront l'intérêt ou le courage de le lire, vous passez donc d'un menuisier qui vote Front National à un jeune précaire qui ne sait plus trop où il se situe, à François Hollande, à Marine Le Pen, à Brice Hortefeux et à quelques autres héros de notre vie nationale. Donc, quels enseignements j'ai retirés de ces explorations diverses et variées? Alors, la première, sur laquelle je passe vite parce que c'est assez connu, mais ça me facilitait le travail, c'est l'anti-sarkozisme. Pourquoi ça me facilitait le travail? Pas par rapport à mes opinions politiques, même si je n'étais pas un ardent défenseur du président sortant, mais tout simplement parce que tout ce que je voyais sur le terrain laissait augurer une défaite de Nicolas Sarkozy. Et donc ça facilitait mon travail dans la mesure où, même si je fais un récit analytique, il fallait quand même qu'il soit un peu vertébré, un peu structuré. Et donc je n'avais aucun doute sur l'issue finale. Et le titre, La victoire empoisonnée avec la photo de Hollande, a été décidé il y a 3-4 mois. Donc ça, ce n'est pas des choses qui se sont faites, en tout cas en ce qui me concerne, au dernier moment. Je voyais ça donc dans des milieux très variés, notamment les chefs d'entreprise. J'en ai rencontré pas mal, bon, surtout des chefs de petites et moyennes entreprises, même si j'ai un patron du CAC 40, Louis Gallois, le patron de ADS, avec qui j'ai eu une longue conversation. Alors il faut reconnaître que c'est un patron un peu particulier, hein, puisque comme vous le savez, il est issu de la gauche et il garde des attaches avec ce milieu malgré sa position. Et d'ailleurs, il m'a confessé, et ce que je mets dans le livre, que la plupart de ses amis votaient Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de patrons du CAC 40 qui soient dans son cas. Il a une autre caractéristique, c'est quelqu'un qui donne les deux tiers de sa rémunération à des associations et à des œuvres diverses et variées. Il applique la thèse du salaire maximal, à laquelle je crois beaucoup, hein, défendue par le MOS de notre ami Alain Caillé. Et malgré tout, d'ailleurs, alors le paradoxe, c'est qu'il ne défendait pas la proposition de François Hollande de 75%, parce que, par réalisme économique, le benchmarking, le fait que nous sommes les patrons sont dans une concurrence internationale. Mais donc, il ne garde que 900 000... ce qui est déjà pas mal, hein, 900 000 euros par an, et puis le 1,8 million, il le rétrocède. Il s'est fixé ça comme règle personnelle. Mais je laisse Gallois de côté, donc patron du CAC 40 atypique, hein, à ses doubles titres, mais mes patrons de PME étaient beaucoup plus classiques. Et là, donc la majorité à droite était à droite, mais... ils n'avaient vraiment pas envie de voter Sarkozy. Beaucoup étaient tentés par François Bayrou. Quelques-uns ne savaient pas. Et encore plus intéressant, d'autres étaient même quelque part tentés par François Hollande. En tout cas, ils n'en avaient pas peur, ce qui montre bien qu'on n'était pas du tout en 1980-81. Donc cet anti-Sarkozy, si vous voulez, si même les patrons ont du mal à voter Sarkozy, je me disais quand même, il aura du mal. Bon. L'autre chose... sur l'état d'esprit du pays, et alors là c'est en lien avec l'habileté de François Hollande, c'est que j'ai vu, alors là aussi c'est pas très réjouissant peut-être, et c'est dans le prolongement de voyage en France, un pays inquiet, non seulement inquiet, mais un pays qui n'attend pas beaucoup de choses de la politique, du pouvoir politique. Le nombre de gens qui m'ont dit, mais enfin... on va voter parce qu'on s'intéresse à la politique, parce qu'on est des citoyens civiques, mais ça ne va rien changer. Je posais systématiquement à mes interlocuteurs la même question. En cas d'alternance, qui semblait quand même probable, qu'est-ce que vous souhaitez? À chaque fois, il y avait un blanc, comme si les gens s'interdisaient d'espérer quoi que ce soit. Et donc, il y a une sorte de scepticisme généralisé qui s'est répandu, et ça peut être sombre, dans la mesure où si les gens n'attendent rien, bon, on est dans une situation un petit peu de sinistrose. Et c'est un état d'esprit public qu'a bien saisi François Hollande. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, avec l'humour qu'il caractérise, il me dit, tu sais, bon, on se tutoie puisque je connais plus Sciences Po, tu sais, j'ai pas besoin de multiplier les promesses parce que de toute façon, les gens n'y croient pas. Et donc, j'en fais quelques-unes parce qu'il faut bien animer la campagne électorale, mais enfin, c'est pas là-dessus que les choses se joueront. Alors, il le dit peut-être avec un zeste de cynisme, mais en tout cas, son analyse était plus réaliste que celle de Nicolas Sarkozy, qui, pendant toute une période de la campagne... Après, il s'est calmé dans la dernière ligne droite, et j'y reviendrai, à multiplier les promesses en restant dans la posture du candidat qui peut résoudre tous les problèmes. ne mesurant absolument pas ce scepticisme qui fait que non seulement lui-même était l'objet d'une incrédulité parce qu'on se disait avec son bilan comment le croire, mais qu'en plus de ça, au-delà de sa propre personne et de l'irritation qu'elle suscitait chez beaucoup, il y avait cette espèce de perte d'espoir dans le pouvoir politique. Le nombre de gens aussi qui m'ont dit, de toute façon, à quoi ça sert de voter, c'est les marchés financiers qui décident. Ça, la fameuse histoire de la note, le triple A, ça a pénétré les esprits. Hein. Moi, j'ai des cuisinières qui m'interrogeaient sur est-ce qu'on va garder notre triple A. Je leur ai expliqué que ce n'était pas très grave. Je ne pouvais pas leur dire parce que je ne le savais pas encore, mais j'ai aussi enquêté à Troyes, dans l'Aube, et j'ai rencontré le patron des andouillettes. Le 5A, je vois qu'il y a des connaisseurs ici, donc le 5A qui m'a dit, alors c'est assez drôle, que les ventes d'andouillettes quintuple A avaient été boostées par la notoriété du triple A. Donc il y a quand même quelques effets collatéraux positifs, mais cette idée que nous sommes dépossédés en quelque sorte de notre capacité de décider collectivement notre avenir, par les marchés, par l'Europe, par la mondialisation, que sais-je encore, est une idée quand même profondément installée. Alors j'en viens au cadeau empoisonné. Alors évidemment, au début, l'éditeur dit quand même, Eric, t'es quand même gonflé. Moi, j'aime un petit côté joueur, mais alors c'était gonflé sur le pari, mais ça, c'était pas l'aspect le plus audacieux. Mais pourquoi dire victoire empoisonnée? Ça semble un peu audacieux, surtout si on paraît quelques jours après la victoire, parce que quand quelqu'un est élu, a priori, on lui trouve que des qualités. Donc, évidemment, c'était un peu ennuyeux d'être... C'est ce qui se passe, oui, aujourd'hui, j'ai regardé les télévisions, mais ça ne durera pas longtemps. Et puis, je crois, d'ailleurs, c'est dit, je l'avais écrit un peu à l'avance, c'est qu'il n'y aura pas l'état de grâce qu'on a pu connaître en 1981, que Nicolas Sarkozy aussi a cru en 2007, parce que ces deux élections étaient des élections, je dirais, positives, où il y avait une attente pour le changement. Sarkozy, hein, on l'a un peu oublié, mais enfin, il avait réussi quand même à provoquer un espoir chez beaucoup. Ça, c'est quelque... Alors, le problème, quand vous soulevez l'espoir, c'est qu'évidemment, quand ça retombe, la désillusion peut être cruelle. Là, évidemment, Hollande est à l'abri de cette désillusion, mais en même temps, il n'est pas porté par ce mouvement. Donc le titre est peut-être moins risqué. Et alors, curieusement, d'ailleurs, le propre père de François Hollande, Georges, a confié à Nice Matin qu'il pensait que les électeurs avait réservé un cadeau empoisonné à son fils. Alors, je ne sais pas s'il avait lu mon livre ou si sa préscience... Comme vous le savez, il est de droite, hein, le père de François Hollande. Donc c'était assez intéressant. Alors, par rapport à ce poison, il est multiple. Hein. C'est évidemment cette fameuse crise économique, mais c'est aussi un état de délabrement de la société. Alors là aussi, c'est un prolongement de voyage en France. J'ai vu aussi une société cloisonnée, une société méfiante, une société où le vivre ensemble est très très malade, où on passe d'un quartier à l'autre. Enfin, j'ai des témoignages de ce point de vue-là. Et Hollande m'a dit un truc assez juste. Il m'a dit, en plus de ça, je sais très bien que je vais arriver dans une société qui a été abîmée par Sarkozy et que Sarkozy s'est adressé à ce que nous avions... de plus bas en nous, et c'est vrai qu'il a activé, on ne peut pas dire qu'il a amélioré l'état de la société française. Une fois de plus, Hollande est parfaitement conscient de la situation qu'il attend. Quand à la fin de notre entretien, notre déjeuner, je lui dis, parce que je savais quel serait mon titre, donc je lui dis, est-ce que tu ne crois pas que les électeurs te réservent une victoire empoisonnée ? Sans lui dire que c'était le titre du bouquin, évidemment, je ne suis pas complètement idiot, il me répond, Eric, toute victoire a sa part de poison, ce dont je me sers évidemment pour la publicité du livre. Et il ajoute, ce qui est encore plus à la fois inquiétant et rassurant du point de vue de sa lucidité, il ajoute, je m'attends à de la colère et aussi à de la violence.
Ah ouais.
Alors qu'il savait que le livre serait publié le 10 mai, et que ces propos seraient rapportés, ils étaient enregistrés, hein, je ne l'ai pas piégé, hein, alors, l'iPhone en position enregistrement était sur la table. Donc il est très très au courant de ça. Donc le poison, c'est la crise économique, l'angoisse sociale, le délitement de la société, la crise morale, et aussi évidemment la crise européenne qui n'attend pas pour frapper à la porte, comme on le sait. Je termine sur un mot, malgré tout, sur le fait... Alors, autre aspect, oui, comme ça me permet de refaire aussi le lien avec le titre, l'aspect plus politique de la victoire empoisonnée. Ben, il y en a deux, au moins. Je dis bien au moins. Le premier, c'est évidemment la configuration du premier tour, du 22 avril. Non seulement les 18% du Front National, donc c'est quand même important, mais aussi les 11% de Jean-Luc Mélenchon. Dans les deux cas, même si je ne fais pas une symétrie entre les deux, hein, naturellement, mais dans les deux cas, un bon nombre d'électeurs ont voté pour Marine Le Pen d'un côté, pour Jean-Luc Mélenchon de l'autre, moins par adhésion à leur programme respectif que pour faire pression sur les candidats finalistes supposés, hein, du côté de Marine Le Pen par rapport à Nicolas Sarkozy, du côté de Jean-Luc Mélenchon. Il y a quand même beaucoup d'électeurs de gauche qui ont émis un vote, je dirais, tactique ou stratégique, comme l'on veut, pour piquer les fesses, en quelque sorte, hein, d'un candidat socialiste un peu rose pâle et dont ils craignaient qu'il ne soit pas suffisamment audacieux, et plus que pour adhérer au programme qui, quand on le lit, est quand même un programme, disons, un programme maximal, comme on disait à une certaine époque. Bon. Donc ça, c'est une configuration, le premier tour, qui est déjà rend le pays pas très facile à gouverner. Par parenthèse, on y reviendra peut-être, ça me laisse supposer que les législatives ne seront pas simples et que je pense que la gauche, la logique voudra que la gauche les gagne dans la mesure où le phénomène de cohérence jouera et que les électeurs en majorité voudront sans doute donner au président élu une majorité, mais je ferai le pari, je suis de nature parieuse, que les socialistes à eux seuls n'auront pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui compliquera l'exercice du pouvoir. Deuxième aspect de victoire empoisonnée est strictement politique, deuxième et dernier aspect, c'est le 6 mai, l'ampleur de la victoire. Alors là, j'avoue une surprise, je ne pensais pas que, et Hollande non plus quand je l'ai vu, que la victoire serait aussi courte. 51,6%, c'est déjà... Alors, attention, je ne raisonnais pas par rapport aux sondages, je les connais trop, c'est pas ça la bonne référence. Quand on connaît l'histoire électorale de la Ve République, on sait qu'un président nouvellement élu ne l'est jamais avec une marge très, très forte. Hein. Vous vous souvenez de Giscard en 1974, nouvellement élu... Précisons, dans le cadre d'un rapport droite-gauche, parce que Pompidou a été nouvellement élu, mais dans une configuration différente, et donc avec une élection large. Mais dans le cadre d'un rapport droite-gauche, un président nouvellement élu, c'est-à-dire hors réélection, ne l'est jamais avec plus de 53,1% des suffrages exprimés. Ce record ayant été atteint par Nicolas Sarkozy lui-même en 2007. Donc c'était une assez belle victoire. Bon, mais il avait quand même une candidate de gauche dont la crédibilité posait problème. Or, il n'avait fait que 53,1. Donc, on pouvait anticiper 52, 53, quelque chose comme ça. Mais en dessous, j'avoue que j'étais un peu surpris. D'autant plus que, comme vous le savez, un chiffre qu'il faut toujours regarder aussi, c'est le pourcentage, ou en tout cas le chiffre par rapport aux votants. Et il s'est trouvé que le 6 mai... donc le second tour de l'élection présidentielle, moins d'un Français sur deux qui a déposé un bulletin dans l'urne a voté François Hollande. Pourquoi ? En raison des 6% et quelques de bulletins blancs et nuls. donc de gens qui n'étaient pas que des électeurs du Front National, puisque Marine Le Pen avait dit qu'elle-même personnellement votait blanc et nul. Et ça pouvait être des électeurs aussi de d'autres tempéraments. Je connais parmi mes amis bayrouistes des gens qui ont aussi voté blanc et nul. Donc ça, c'est un petit. Ça n'enlève rien à la légitimité institutionnelle du candidat élu, mais c'est vrai que ça relativise le mandat électoral qui s'est porté sur vous. Ce n'est pas une nouveauté dans la mesure, en 1995, Jacques Chirac, lui aussi, avait été élu avec une majorité simplement relative, et donc non pas absolue, de votants. Mais ça réduit quand même la marge de manœuvre de François Hollande, et ça explique certainement aussi en partie, il y a d'autres raisons, hein, plus psychologiques, que sa domination de François Ayrault par rapport à Martine Aubry, qui aurait représenté une orientation politique peut-être un peu plus musclée. Je termine en donnant quelques éléments d'explication. Pourquoi cette victoire courte? Je pense que... Alors c'est très intéressant, puisque dans le déjeuner, à un moment donné, je dis à Hollande me dit, et toi, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis, écoute, tu, à mon avis, tu as gagné. Et il me dit, fais attention parce que c'est enregistré, avec son sens de l'humour. Je dis, écoute, tu as gagné, mais le problème, c'est, est-ce que tu as une victoire courte ou une victoire longue? Ah, il dit, ah bon, tu crois ça? Je dis, oui. Il dit, moi aussi. Je dis, mais oui, d'accord, mais alors, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça, je ne le dis pas, je ne pouvais pas me mettre en scène. Donc ça, c'est le privilège d'être dans ce genre de réunion. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça soit une victoire longue et non pas une victoire courte? Et alors là, il ne savait pas trop. Il n'avait pas trop d'idées, parce qu'il dit, tu sais, moi, je ne peux pas changer de ligne. Parce que, il avait raison, il ne pouvait pas se départir d'une orientation un peu prudentielle. Parce que il dit, si moi je me mets à me gauchir ou à prendre des positions un peu différentes, les gens diront c'est une girouette, la crédibilité. Donc il est resté sur ses rails. Ce qui n'a pas été le cas de Nicolas Sarkozy avec les excès qu'on lui connaît, mais lui n'est pas resté sur ses rails. Il a foncé sur une ligne qui est la ligne des frontières, qu'il avait déjà esquissée avant le premier tour, mais qu'il a martelé dans l'entre-deux-tours. Curieusement, il ne l'a pas utilisé dans le débat où il s'est laissé dominer parce qu'il a été étonné par la résistance de François Hollande. Mais cette orientation des frontières, quoi qu'on en pense sur le fond, me semble-t-il, est une orientation électoralement efficace. Pourquoi? Pas simplement parce qu'elle permettait de façon politicienne de ramener l'électorat Front National, ce qui a été le cas quand même. Ces 58,4% s'expliquent par quand même de bons reports du Front National, ce qui était son objectif. Mais aussi, plus profondément, parce que vous savez, parfois, les problèmes, ils sont plus... On les identifie, on dit l'immigration, c'est le Front National. Quand on discute ce qui est mon travail avec les gens, on se rend compte que vous avez des électeurs de Bayrou qui peuvent avoir des préoccupations qui ne sont pas forcément très différentes sur certains points de ceux de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, les sondeurs ont vu des transferts assez étonnants de Bayrou à Le Pen et vice-versa. Pourquoi? Parce que cette orientation des frontières, me semble-t-il, répond à deux préoccupations, à deux inquiétudes très répandues dans la société française par rapport auxquelles Hollande n'avait pas vraiment de réponse. Première inquiétude, l'inquiétude sur l'immigration. Ou pour être plus précis, ce n'est pas l'immigration, c'est l'intégration. Et quand beaucoup de gens me disaient, oui, mais on a un problème avec les étrangers, etc., ils ne s'intègrent pas. Je dis, attendez, ce n'est pas des étrangers. Là, vous voulez me dire que c'est là, ceux qui tiennent les murs, là, dans la cité, etc. Ils sont français, et parfois, maintenant, depuis deux ou trois générations. Mais c'est pour ça que j'emploie ce terme de vivre ensemble. Un problème d'intégration, pas simplement par rapport à l'emploi, d'une intégration symbolique. Hein, vous avez peut-être vu la polémique qui a eu lieu le soir du 6 mai avec les drapeaux étrangers, oui. Notamment avait algériens, marocains, yéménites, il y a syriens, il y avait beaucoup de choses. Bon, et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de drapeaux tricolores et ça faisait une curieuse impression. Et moi, j'étais à rue 89 pour lequel j'ai chroniqué cette campagne et je me suis permis de faire un tweet parce que moi, je ne crains pas d'affronter le politiquement correct, en disant, bah, c'est quand même pas très malin. Je n'ai pas dit c'est scandaleux. J'ai dit c'est pas très malin d'agiter des drapeaux étrangers le soir de l'élection du président de la République. Alors tout de suite, mes bons bobos d'amis de rue 89 me sont tombés sur le poil en me disant « Mais si, c'est un signe d'intégration », me dit Pieraski. Mais visiblement, Pieraski va moins dans les cités que moi et moins journaliste de terrain que moi. Et donc défendaient ça. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que rue 89, bon, ils défendent, ils sont très régularisation de tous les sans-papiers, ce qui n'est pas ma position personnelle. Mais leur rédaction, ils sont très la diversité, etc. Mais leur rédaction est très blanche. Sauf une excellente journaliste prénommée Zineb. Eh bien, c'est la seule qui m'a défendu, qui a dit « c'est Eric qui a raison ». C'est pas très malin d'agiter les drapeaux. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas fait par provocation. Ce sont des jeunes qui n'ont que ça comme drapeau, qui sortent quand ils vont à un match de foot, et c'était pour montrer leur fierté, leur joie. Donc c'est un problème, je dirais, de conscience politique. C'était pas de la provocation. Comme vous le savez, là aussi, c'est pas sans précédent, puisque ce qui avait plonger Bernadette Chirac dans l'affliction, c'est qu'en 2002, ils avaient fait un petit raout Place de la République, et il y avait des jeunes qui agitaient des drapeaux algériens, et Bernadette, évidemment, en était tout chose. Bon. Donc l'inquiétude par rapport à l'intégration, par rapport au vivre ensemble, inquiétude par rapport à laquelle on a eu le discours plus que musclé, le discours souvent scandaleux de Nicolas Sarkozy, d'exploitation éhontée de ses problèmes et de ses craintes. Mais en face, il faut bien reconnaître qu'on avait un Hollande qui était très hésitant, très timide, très timoré, pour une raison simple, c'est qu'il est partagé entre le fond de ce qu'il pense, qui n'est pas loin de ce que je pense moi-même et pas mal de gens quand même à gauche, et en même temps, il sait que c'est devenu un marqueur symbolique pour toute une autre partie de la gauche bobo rue 89 et compagnie. Et donc, mais un peu plus, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon aussi, là, faisons France de tout bois, se faisant applaudir sur ce slogan qui me semble, disons, critiquable. Bon, donc la gauche là-dessus, il faut bien reconnaître, elle est partagée. Et donc, il avait besoin d'avoir les voix des uns et des autres, et donc il n'a pas voulu clarifier. L'autre inquiétude à laquelle la thématique des frontières faisait écho, c'est le libre-échange. Problème que Sarkozy a pris en charge, là aussi de façon démagogique dans la campagne, mais il l'a pris en charge. Il y avait une réponse. Il disait « on va faire ceci, cela ». Il n'aurait pas fait le quart de ce qu'il avait dit, mais au moins il en parlait. Et là encore, notre ami François Hollande n'en parlait très peu. Parce que là encore, entre ses amis Jean-Pierre Jouyet, les économistes qui ne sont pas du tout atterrés, qui sont dans son entourage, qui sont même plutôt conformistes, bon, ce sont des gens pour qui le libre-échange est un dogme qui ne peut pas être contesté, sauf à être envoyé au bûcher. Et à côté de ça, il sait très bien que bon, bah, y a les délocalisations, il y a un certain nombre de choses qui sont vécues. Et donc, il n'en a pas beaucoup parlé. Et je pense que Nicolas Sarkozy a réussi à faire ses 48,4%, pas uniquement par une astuce politicienne vis-à-vis du Front National, mais en répondant, alors à sa manière démagogique, à un certain nombre d'inquiétudes qui n'étaient pas véritablement prises en compte par un candidat socialiste qui bottait en touche. Voilà, je vous remercie.